Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. On continue avec les élections législatives. On est Circo 1. On est avec Michael Saïfi. Bonjour.
Bonjour.
Vous, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau. Vous êtes investi par Lutte ouvrière dans le cadre de cette élection dont le premier tour aura lieu dimanche. Alors, quels sont les éléments clés du programme de Lutte ouvrière ?
Bah écoutez, le programme de Lutte ouvrière, c'est un programme de lutte et de lutte de classe. Parce qu'effectivement, à Mayotte, on a bien pu constater que les services publics dysfonctionnent. Que, d'ailleurs, on a manqué d'eau au point d'en avoir que 18 heures sur 3 jours. Ce qui est quand même assez scandaleux. Et le terme est très faible. Et puis que la vie est plus chère ici qu'ailleurs et que les salaires sont plus bas. Donc nous, ce que nous disons aux travailleurs, aux gens qui subissent ces conditions d'existence, c'est que d'une part, et ça c'est très important, l'ennemi c'est pas l'étranger, c'est pas celui qui est notre nation et qui est dans une situation aussi d'oppression, c'est pas celui qui a une culture différente et qui est aussi dans une situation d'oppression, c'est pas celui qui a une couleur de peau différente et qui est aussi dans une situation d'oppression, non, l'ennemi, celui qui en fait nous maintient la tête sous l'eau, pardon, c'est un système capitaliste, et c'est des gens qui ont un intérêt à justement augmenter les prix, baisser les salaires, nous diviser pour pouvoir nous exploiter. Et ça marche très bien parce que ça, je voudrais vraiment qu'on en ait conscience, c'est pas hors sol, c'est réel, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Ce sont des capitalistes bien français qui nous exploitent, qui nous empêchent d'avoir du travail, de créer des richesses. La fortune du capitaliste français le plus riche, c'est Bernard Arnault, il a 250 milliards d'euros. À quoi ça y sert ? Est-ce que cette fortune qui découle, non pas de son travail, hein, personne ne peut travailler et par son travail avoir 250 milliards d'euros, je pense que là quand même on sera tous d'accord, cette fortune-là...
Enfin, il dirige son groupe quand même,
il dirige
donc
son groupe,
c'est son travail quelque part.
Très bien, mais il pourrait aussi mettre quelqu'un d'autre à diriger son groupe, et beaucoup de groupes le font, d'accord, et on peut quand même considérer que ce travail-là ne mérite pas un si gros salaire. On parle quand même de 250 milliards d'euros.
Enfin, il ne les gagne pas tous les ans, c'est accumulé depuis un certain temps. Enfin,
C'est quand même 250 milliards d'euros.
Oui, bien sûr.
Moi, je suis à 2007, ou je ne sais pas combien vous êtes. Il y en a qui sont ici...
Et 2007, c'est déjà un très gros salaire.
C'est un très gros salaire, et justement, quand je dis qu'on ne doit pas se diviser et qu'on ne doit pas avoir petit, c'est parce que moi, mon salaire que j'ai ici, mais il devrait être généralisé pour tout le monde. Je ne comprends pas comment ça se fait que, d'ailleurs, on considère que les fonctionnaires, ce soit légitime, qu'ils aient 40% de primes de majoration par rapport à la vie chère.
C'est l'indexation.
C'est l'indexation, effectivement. Ce qui est tout à fait logique, finalement, si on y réfléchit, d'ailleurs. Et personne ne va le contester. Mais pourquoi, finalement, dans le privé, il ne l'aurait pas ? Et vous voyez, c'est toutes ces divisions qui se font par rapport à la nation, par rapport au statut privé, public, où on va se jalouser les miettes, plus ou moins les miettes qu'on reçoit. Mais il y en a qui ont vraiment des petites miettes. Hein. Faut voir à combien le RSA ici, le SMIC. Mais il faut arrêter justement cette division, il faut comprendre que non, on a intérêt de classe, c'est nous qui produisons toutes les richesses sur cette terre. Sans nous, il n'y a rien qui se fait, et le Covid en a été la preuve, parce que ce n'est pas des allégations, je n'affirme pas des choses sans démonstration, sans exemple empirique. Lorsqu'il y a eu le Covid et qu'on a arrêté de travailler, on a vu qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait. Bernard Arnault, vous le citiez, il dirige son entreprise, sans les travailleurs, il n'y a plus rien qui se passe, vous voyez ? Donc il faut qu'on ait conscience que finalement... Peu importe notre nation, peu importe notre culture, c'est nous qui produisons tout. Et on produit notamment les profits des gens qui nous exploitent. Et c'est ça quand même qui est assez paradoxal et qui est dur là-dedans, c'est que plus on travaille, plus on grossit leur capital.
Mais alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que bon, là, je pense que vous avez expliqué la philosophie de Lutte ouvrière. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Si vous êtes élu le 7 juillet, vous allez faire quoi ?
Ben, je ne vais pas faire de démagogie, je ne vais pas faire de fausses promesses et vaines promesses. Par respect et sincérité envers les électeurs, et d'ailleurs je pense que beaucoup l'ont compris, parce que finalement le plus grand parti à chaque élection, c'est le parti des abstentionnistes, d'accord. Si les gens ne votent pas, si finalement ça marchait si bien les élections, les gens voteraient,
bien sûr.
Donc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent que ça ne fonctionne pas. Donc moi je m'adresse à eux, je m'adresse à tous. Moi je ne ferai pas de fausses promesses. Si je suis élu, admettons, bah, Vous entendez quel est mon camp, vous voyez quelle est ma pugnacité, parce que je prends quand même les micros sur un territoire où la lutte des classes n'est pas entendue, où les propos sont plus sur le rejet de l'étranger, d'accord, Mais les Maoré, je mettrai ma pugnacité.
Les Maoré vous diraient que c'est pas vrai, que la population maoraise est extrêmement accueillante. C'est qu'aujourd'hui, la situation est devenue insupportable en réalité. C'est ça qu'ils vous disent. Ils vous disent que tout le monde est le bienvenu à Mayotte.
Non, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la population qu'on entend peut-être moins d'ailleurs, qui prend peut-être moins les micros, qui a d'autres perspectives que le fait de vouloir mettre un rideau de fer, etc. Vous disiez que finalement la situation est insupportable à Mayotte. Moi, je l'entends, j'y vis, il n'y a aucun problème. Mais justement,
et vous le partagez.
Ben bien sûr que la situation est insupportable. C'est bien pour ça que notamment je suis ici, pour discuter, pour ouvrir d'autres perspectives.
Bien sûr.
Faire réfléchir peut-être autrement. Et effectivement, les gens proposent. Hier, j'étais dans un débat télévisé et ils proposaient de mettre un rideau de fer, ramener Frontex ici, ne pas soigner, ne pas scolariser les enfants en situation irrégulière. Bon, voilà, vous voyez que toutes ces propositions, finalement, elles engendrent quelque chose, elles engendrent un climat de violence. D'accord ? Parce que finalement, les gens qui veulent traverser, qui sont empêchés et qui meurent en mer, pour ceux qui arrivent à passer et qui ont perdu un frère, un enfant, des parents, ça ne les fait pas venir en paix. Ça engendre une violence, d'accord ? Pareillement.
Si je pense finalement... que si les personnes veulent qu'ils ne viennent pas, tout simplement, pas qu'ils meurent en mer. Je crois que personne ne veut que qui que ce soit meure en mer.
Oui, mais factuellement, il faut bien comprendre que cette politique crée ça, crée des morts, crée de la détresse, d'accord ? Et d'ailleurs, malgré tout ça, les gens continuent à traverser, ils continueront à le faire, parce qu'on a bien vu que le monde se barricade, et ça n'arrête pas les gens. Parce que chaque être humain veut juste avoir une vie meilleure. Et je parlais des frontières, il y en a une qui marche très bien, c'est la frontière entre Mayotte et la France. Et c'est peut-être elle qu'il faudrait faire sauter. C'est-à-dire que finalement, ce visa territorialisé, souvent quand je suis invité, on me fait parler sur la loi Mayotte. Est-ce qu'il faut regarder son contenu ? Et nous, à Lutte Ouvrière, par exemple, étant donné qu'on réfléchit en termes de lutte de classe, et non pas d'un point de vue national ou culturel, on est évidemment favorable à ce que ce visa territorialisé, pardon, qui bloque les gens et qui crée une misère et un chaos ici, soit abrogé.
Oui, mais parce que vous, chez Lutte Ouvrière, vous êtes pour une libre circulation des personnes au gré de leur volonté partout à travers le monde.
Effectivement, parce que moi, personnellement, j'ai un passeport français qui me permet de circuler assez librement à travers le monde, liberté de circulation et d'installation. Je ne vois pas pourquoi cet avantage qui m'est cher, je le refuserai à d'autres alors que je me l'autorise, finalement. D'accord, ça c'est logique.
Ça s'entend.
C'est assez logique. Et puis surtout, y a une certaine cohérence parce que le monde est mondialisé. Le capitalisme, c'est pas fait juste dans un seul pays. Aucun objet ici n'a été produit à Mayotte, ni même en France. Le pétrole, les matières premières au Congo, etc. Le textile qui est fabriqué au Bangladesh, que sais-je. Tout est mondialisé. Les capitalistes aussi, ils n'ont pas de nation. Ça, c'est un exemple que je prends très souvent et que je vais répéter, il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment bien le comprendre. C'est que finalement, nous, on a des barrières qui sont des frontières, des nations. Les capitalistes, ils n'en ont pas. Bernard Arnault, encore une fois, je le reprends celui-là, c'est un parfumeur. Il a besoin de matières premières et Mayotte, c'est l'île au parfum. Il y a l'île Anguilang. Il l'utilise pour faire son Chanel 5 ou je ne sais quel produit. Est-ce qu'il le produit à Mayotte ? Est-ce qu'il fait travailler des Français ? Est-ce que lui, il raisonne en termes national ? Non, lui, ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire du profit. Et pour faire du profit, il a considéré à juste titre que c'était plus intéressant de faire travailler les travailleurs aux Comores, les payer 15-20 euros pour augmenter ses dividendes. Et donc, c'est là aussi, finalement, les flux migratoires qui se font. Parce que je veux bien qu'on mette des barrières. Et comme je disais, ça ne marche pas. Mais par contre, il faut peut-être élargir sa réflexion et se dire que s'il y a une migration qui va des Comores à Mayotte, c'est parce que la vie est insupportable là-bas et tant que les Comores ne seront pas développés, cette migration continuera. Et on aura toujours ce flux migratoire ici et on sera toujours saturé parce qu'on est une île et je finis. Hein. Je vais donner un autre exemple. Les discours justement de repli qu'on entend, ils existent partout. Ils existent à La Réunion. À La Réunion, qu'est-ce qu'ils disent ? Que si les écoles sont saturées, que si les services publics ne marchent pas, que si l'hôpital Félix Guillon ne permet pas de soigner la totalité des populations, s'il n'y a pas assez de logements, s'il y a du chômage, s'il y a de la violence, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a des étrangers. Et leurs étrangers, c'est qui ? C'est les Maoré. Ça, c'est des discours qu'on entend sur les plateaux. Si des gens ici ont de la famille qui est à La Réunion, et il y en a, j'imagine, ils peuvent demander. Qu'est-ce qu'ils se disent ? On est tous le Comorien de quelqu'un. Lorsqu'on se divise, qu'on se tire une balle, on ne se tire pas une balle directement sur nous, hein, mais quand on tire une balle sur un travailleur, pour des raisons de nationalité, de culture ou autre, Et ben on doit accepter d'en prendre une autre, et on se divise, on s'affaiblit, et en attendant, les gens qui nous exploitent, encore une fois, et qui s'enrichent à milliards, qui décident de tout, de nos emplois, de nos conditions d'existence, de ce qu'on produit, de ce qu'on ne produit pas, mais ils doivent être hilars. Ils doivent se moquer de nous, de ne... Enfin, comment dire ? Ils nous exploitent, ils nous dominent, et au lieu de s'en prendre à eux, on se jalouse des miettes.
Concrètement, on change comment le monde ? Parce que là, c'est une révolution que vous proposez. Elle ne me semble pas être aux portes du pays.
Bah écoutez,
celle-là,
ça commence...
en tout cas. D'autres peut-être, mais pas celle-là.
Bah évidemment, on ne veut pas changer la couleur des rideaux à l'Élysée. Donc, c'est pas ça, ça ne passera pas. C'est pour ça que moi, avec beaucoup de sincérité, par rapport à cette réflexion qui, j'espère, va percuter les gens qui nous écoutent.
Bien sûr, c'est le but.
N'est-ce pas ? Donc, ça va commencer déjà par justement prendre conscience qu'il y a une lutte de classe, que tout part de là, qu'on produit toutes les richesses, qu'on ne doit pas se diviser, qu'on a des oppresseurs, et que le combat, il se mènera par des luttes réelles, pas par des luttes parce qu'on a mis un bulletin tous les 5 ans, et qu'il y a 3 candidats qui sont passés à la télé et qui ont fait de la démagogie, de la xénophobie, mais parce que sur les lieux où on produit des richesses, on se bat, et parce qu'aussi on a une solidarité de classe. Encore une fois, le travailleur qui est exploité au Bangladesh, ou qui est exploité au Brésil ou au Congo, c'est quelqu'un qui fait partie de ma classe. Son combat, c'est le mien. Et mon bonheur, ma prospérité passe par la sienne.
Mais si vous êtes élu le 7 juillet, vous siégerez dans quel groupe à l'Assemblée nationale ? Parce qu'on on se rend bien compte là que s'il n'y a pas de majorité, le pays est un peu ingouvernable. Donc chaque député a une responsabilité par rapport à ça. Donc si vous êtes élu député, vous siégerez où ?
Au groupe Lutte Ouvrière que je représenterai. Enfin, je pense qu'on ne sera pas beaucoup d'élus, je ne sais même pas si on en aura. Mais... nous, si on a l'Assemblée, le discours que je viens de tenir, cette conscience de classe, cette pugnacité, je la porterai à l'Assemblée nationale. Encore une fois, je le dis pour ne pas désarmer les travailleurs, ne pensez pas que c'est en élisant des députés que vous résoudrez tous vos problèmes. Le combat, il est trop fort, trop important. En face, les capitalistes, ils ont aussi une idéologie, ils ont des politiciens, ils ont une armée. Et c'est pas en élisant un individu ou quelques individus qui vont blablater et qui vont porter des lois qu'on va réussir à changer les choses. Il faut qu'il y ait des masses qui nous poussent. Même si vous élisez des gens qui ont des bonnes intentions, si vous les poussez pas, vous n'y arriverez pas. Moi, je peux faire un parallèle avec les gens qui travaillent, qui ont des délégués syndicaux. C'est bien beau de les élire et de leur dire d'aller en face dans les CSE, et d'aller discuter. Mais s'ils n'ont pas été poussés avant, si on les a pas poussés pour revendiquer nos droits, pour gagner des augmentations de salaire, des meilleures conditions, du télétravail, etc., mais évidemment qu'ils vont se faire écraser. Nous, ce qu'on a en tant que travailleurs, c'est notre nombre, notre conscience de classe, notre utilité sociale. On ne peut compter que sur ça.
Et ce sera le mot de la fin.
Ça me va très bien.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci.
C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes.